Ele morre daqui.
Ele
Aujourd'hui, nous allons tenter de tordre le cou d'un cliché concernant la ville de Saint-Étienne et qui persiste encore durement.
Saint-Étienne, c'est une ville noire ?
Non, pas celui-là.
Ah ben, Saint-Étienne, c'est la capitale des taudis ?
Non plus.
Ah, je sais. Les mineurs stéphanois, ils buvaient au moins 35 litres de vin par jour.
Non, toujours pas, non.
C'est la meilleure équipe de foot de tous les temps ?
N'allons pas sur ce terrain-là. Allez, trêve de bavardage. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question. Saint-Étienne est-elle un gruyère ? En effet, dans l'inconscient collectif, à cause de son passé minier et de l'exploration de son sous-sol depuis le XIIIe siècle, l'ensemble de la ville de Saint-Étienne et ses bâtiments reposeraient sur des galeries souterraines de plusieurs centaines de kilomètres. Des trous béants, du nord au sud et d'est en ouest, alimentant toutes sortes de légendes urbaines et de fantasmes. Si c'était exact, on devrait plutôt dire que Saint-Étienne est un emmental, plus qu'un gruyère. Puisque dans le gruyère, il n'y a pas de trous. Enfin, en tout cas, bien moins que dans l'emmental. D'ailleurs, saviez-vous que la présence des trous dans un fromage est due à de minuscules particules de foin qui se glissent dans le lait lors de la traite des vaches et qui, lors du processus de fermentation, émettent des gaz à l'origine des trous ? Fascinant, non ? Mais revenons-en à nos moutons. Enfin, nos vaches. Notre gruyère émental. Enfin, notre sujet, quoi. Donc, selon la légende, Saint-Étienne serait un véritable gruyère. Eh bien, au risque d'être rabat-joie, ça n'est pas tout à fait juste. Et nous allons de ce pas comprendre pourquoi. Si l'exploitation du charbon commence dans la Loire dès le XIIIe siècle, ça n'est qu'à partir de la fin du XVIIIe que l'on commence à creuser de vrais puits de mines profonds. En effet, il a fallu attendre l'invention de la machine à vapeur pour pouvoir pomper correctement et de manière optimale les eaux d'Exor.
Les quoi ?
Bah, les eaux d'Exor, c'est-à-dire les eaux souterraines. Je m'explique. Le charbon se trouve sous terre. Il est issu de végétaux en décomposition, enfouis sous d'épaisses couches de sable et de boue depuis 300 millions d'années. Au départ, on exploite les affleurements en surface, mais bientôt cela ne sera plus suffisant et il faudra commencer à creuser un peu plus profond. Pour cela, on creuse des fendus, sortes de tunnels en pan incliné qui descendent progressivement à quelques mètres sous terre. On a tous vu des films sur les chercheurs d'or au Far West ? Eh bien, l'exploitation du charbon ressemble plus ou moins à ça jusqu'au XVIIIe siècle. La principale difficulté lorsque l'on creuse sous terre, et qui constitue un réel défi pour les mineurs, c'est l'eau, ou plutôt les eaux souterraines. Puisqu'au-delà d'une certaine profondeur, on atteint les eaux souterraines des nappes phréatiques. Impossible alors de travailler dans l'eau. C'est là que la machine à vapeur fait son entrée et joue un rôle décisif, puisque grâce à elle, les eaux souterraines ou eaux d'Exor vont pouvoir être pompées. C'est alors que des puits plus profonds pourront être creusés, à moins 500 mètres, moins 770 mètres pour Courriot, moins 800, moins 900 et parfois bien au-delà du kilomètre. L'exploitation peut alors battre son plein. Des galeries sont creusées, le charbon est exploité et un véritable réseau souterrain est créé. Le bassin de la Loire est structuré par l'État au tout début du XIXe siècle pour permettre son exploitation rationnelle à grande échelle. Il est ainsi divisé en concessions à partir du travail topographique engagé en 1812 par l'ingénieur des mines Bonnier. De puissantes compagnies privées sont créées aux côtés de petites exploitations artisanales. Pour accompagner leur développement, l'État crée en 1816 à Saint-Étienne l'école des mineurs, qui deviendra l'école des mines à la fin du siècle. Le bassin houillé se développe tout au long du XIXe siècle et ne cesse de se perfectionner avec l'arrivée des nouvelles techniques mises au point par les ingénieurs des mines. Mais attention, l'exploitation du charbon et le creusement des galeries est dûment encadrée et contrôlée. Elle concerne un périmètre précis et défini à l'avance. Pas question de creuser n'importe où et n'importe comment. Il en va de la sécurité des hommes, mais surtout de l'image des compagnies minières. Pourtant, comme l'indiquaient les travaux cartographiques de Bonnier, des couches de charbon se prolongeaient sous le centre-ville de Saint-Étienne. Leur exploitation mettrait en péril les zones urbanisées ou occupées par d'autres industries, comme la passementerie, l'armurerie ou la métallurgie. Alors, sous la pression des industriels et notables locaux, afin de ne pas dépasser un certain périmètre de sécurité,
l'ordonnance royale du 27 novembre 1822 instituait une ligne d'investison restreignant l'exploitation et l'installation de mines dans les limites de la commune de Saint-Étienne. Cette limite ne concernant pas les anciennes communes d'Outrefurant, Beaubrun, Valbenoite et Montaut, il est donc normal de voir aujourd'hui encore par endroits des traces de l'exploitation minière sur le bâti, avec par exemple des immeubles penchés, des fendards dans les murs. Il en va de même pour certaines zones à l'intérieur du périmètre communal, où des travaux antérieurs au XIXe siècle ont eu lieu et où certaines autorisations d'exploitation et de recherche ont pu être délivrées jusqu'au XXe siècle. On peut même supposer que certains problèmes d'affaissement ou d'effondrement, comme dans le quartier de Tarentaise par exemple, sont probablement dus à des exploitations illégales et donc à la fois peu profondes et mal remblayées.
Eh oh, tout ça c'est bien joli, mais ça n'a pas empêché un effondrement dans le quartier de Montieu en mars dernier. Un trou de 100 mètres carrés et 15 mètres de profondeur. C'est pas rien quand même.
Certes, avec ce genre d'événement, mon argumentaire est quelque peu mis à mal. Mais ce genre d'événement, justement, est loin d'être fréquent. Mais peut arriver, dans la mesure où le sous-sol est vivant et bouge, et donc peut évoluer malgré les précautions prises par le passé. Souvent, ce sont les extractions proches de la surface qui constituent un risque, ou bien les terrains aménagés avec des stériles, des déchets miniers, qui sont ensuite entrés en combustion. Tous les propriétaires stéphanois le savent, la clause de risque minier est présente dans tous les actes de vente sur la commune stéphanoise. Elle reprend l'article L154-2 alinéa 1 du code minier qui stipule que le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation, etc., etc. Lors d'une vente, un diagnostic réalisé par un bureau de recherche géologique et minière doit également être fourni par le vendeur. D'autre part, pour éviter toute déconvenue à de nouveaux propriétaires, les services de l'État ont élaboré le plan de protection contre les risques miniers en interdisant certaines zones. Abordons maintenant la question du remblayage, autre argument anti-gruyère. Lorsque l'on exploite le charbon, on creuse des galeries souterraines, ça on l'a bien compris. Mais contrairement à ce que les non-initiés imaginent, on ne creuse pas des trous à l'infini. Imaginons un peu. On exploite une couche de charbon large de 100 mètres à 500 mètres sous terre. À votre avis, que se passerait-il si les mineurs creusaient sur 100 mètres sans jamais remblayer? Eh bien c'est simple, tout s'effondrerait sous la pression, et au mieux les mineurs seraient pris au piège. C'est pourquoi on avance petit à petit, en remblayant derrière soi chaque nuit. En fonction de l'époque, la méthode varie. Avant le milieu du XXe siècle, les galeries sont soutenues selon un calcul précis de répartition des forces et des charges par des structures en bois. On utilise généralement un bois de pin, souple, qui accompagnent les mouvements du terrain. Plus tard, le bois est remplacé par des étançons et poutres en métal, rétractables, et même par des machines hydrauliques par endroits. Le but étant, quelle que soit l'époque, d'avancer sur le chantier en exploitant la couche de charbon la journée et de ramener chaque nuit l'arrière du chantier sur l'avant en remblayant la distance parcourue. C'est-à-dire que l'équipe de nuit va remblayer. Soit avec les roches extraites lors du creusement des galeries, on reconstruit des murs, soit plus tard en procédant à un effondrement volontaire et maîtrisé d'une partie du toit de la galerie que l'on appelle le foudroyage dirigé. Cette technique réalisée à grande profondeur, avec donc un impact très atténué sur la surface, reste difficile et dangereuse pour les mineurs. Elle sera grandement facilitée avec l'apparition du soutènement marchand, machine hydraulique qui, comme son nom l'indique, porte le toit et avance en même temps. Cette machine étonnante et révolutionnaire est inventée, s'il vous plaît, à Saint-Étienne dans les années 60. Alors bien sûr, toutes les galeries n'ont pas pu être remblayées, il a bien fallu sortir, mais une grande majorité l'est. Pour le reste, lorsque la mine s'est arrêtée, les eaux d'Exor n'étant plus pompées ont repris leur place, si bien que la majorité des galeries de circulation non remblayées et les chantiers profonds sont désormais inondés. On a en quelque sorte noyé le gruyère.
Oui, ben, de toute façon, on n'est pas dans une région à gruyère, hein. Je le savais bien. On est plutôt fourme, dans le coin.
Les brèves de Courriot.